Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce dernier numéro de la semaine, un numéro exceptionnel de Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large, avec le journal des médias, le journal de la culture, des conseils de sortie et de lecture, le portrait inattendu d'Hélène Manerino et des invités. Et quels invités? Aujourd'hui, un événement. Je reçois Franck Riester, le ministre de la Culture et de la Communication, et il nous passionne à double titre ici, puisqu'il a dans son périmètre la culture et les médias. On va parler des sujets tendus du moment, et il y en a: la redevance, la réforme de l'audiovisuel public, les nouvelles règles de la publicité à la télé et le bras de fer entre l'État et Google. Google qui voudrait tout avoir et rien payer, comme on dit à Lyon. Et puis, l'humoriste Thomas VDB dans la deuxième heure, le seul qui peut vous faire hurler de rire en parlant de chansons françaises, de lecture et même de Bourdieu, le grand sociologue. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et comme tous les jours, on démarre avec Pierre Desereaux de Pure Média. Bonjour Pierre.
Bonjour Philippe.
Ce sont les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier?
Et bien, surprise hier soir, c'est M6 qui s'est classé en tête des audiences de la soirée. M6 qui proposait une soirée anniversaire consacrée aux 10 ans de scènes de ménage. Et oui, déjà une décennie que Raymond et Huguette, ainsi que José et Liliane, s'engueulent tous les soirs sur la 6. Et donc, pour marquer le coup, M6 proposait un prime spécial de scènes de ménage intitulé La Ch'tite Compète. Et ce sont 3 400 000 les spectateurs qui se sont bidonnés avec les couples de la 6. 17% de part d'audience, c'est un excellent score.
Et scène de ménage qui est déjà le feuilleton quotidien le plus regardé.
Exactement. Alors en deuxième place, c'est une mauvaise nouvelle pour TF1. Je pense qu'à la tour TF1 ce matin, on va pas être très content. C'était un nouveau numéro de Danse avec les stars, le 8e de la saison 10 de Dals, le divertissement animé par Camille Combal. Alors pourquoi Dals un jeudi soir, me direz-vous? Eh bien parce que samedi, l'antenne de TF1 sera mobilisée pour les Energy Music Awards. Alors du côté de Dals, les choses sérieuses commençaient pourtant, puisque c'était les quart de finale, marqué par l'élimination du jeune Aziz Diabaté. Et à peine 2 900 000 personnes ont passé la soirée devant Danse avec les stars. C'est 14% du public, c'est le plus bas historique de l'émission. C'est un score assez inquiétant pour le divertissement de TF1. France 2 est troisième avec un nouveau numéro de son magazine Envoyé spécial, présenté par Élise Lucet. Hier, le thème de la soirée était « Un monde sans viande ?» Point d'interrogation. Trois reportages étaient au programme, dont la rencontre entre un boucher et une militante végane, ou encore un focus sur la viande de synthèse. Cette soirée pour le moins saignante a fédéré 1 900 000 Français, ce qui représente 9,4% du public. C'est en légère hausse par rapport au précédent numéro d'Envoyé spécial. Au pied du podium, c'est France 3 avec sa case cinéma du jeudi soir. Hier, la 3 proposait du Spielberg, quelle bonne idée, avec la rediffusion du film Cheval de guerre avec Jeremy Irvine et Emily Watson. Ce film de guerre américain a été suivi par 1 800 000 cinéphiles, 9% du public.
En même temps, c'est pas le Spielberg le plus connu.
Non, c'est pas le plus connu, mais il est pas mal.
Et sur les autres chaînes, qui a passé le million?
Du côté des autres chaînes, une seule chaîne dépasse le million, c'est TMC avec Taxi 2, avec Samina Seri et Frédéric Diffental. 1 million de fidèles, 5,2% de part d'audience, c'est toujours efficace.
Merci beaucoup Pierre Desereaux, vous serez là lundi?
Bien sûr.
Et bien lundi, c'est le 11 novembre et nous on sera là.
Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Un dernier tour de l'actu des médias avant le week-end, Cyril, qu'est-ce que vous avez pour nous?
Le retour de l'exilé Amazon qui muscle son jeu, le e-sport qui prend ses aises dans les pages de L'Équipe, une chaîne de basket sur internet et l'annonce toute chaude de l'arrivée de Disney Plus en France.
Et Cyril, on commence ce journal par un retour surprise.
Celui de Yann Moix après plus de 2 mois de silence médiatique plus ou moins forcé lié à la révélation de ses écrits et dessins antisémites. L'écrivain faisait donc son grand retour hier à la télé. Il était dans l'émission Balance ton poste sur C8, un instant confession avec Cyril Hanouna, mais surtout l'occasion d'annoncer les raisons de ce comeback. On l'écoute.
Vous ai dit Cyril, si un jour je reviens à la télévision, ce sera chez vous, avec vous. Pour la raison qui est que humainement, j'estime énormément Cyril et que pour d'autres raisons, littérairement d'une certaine manière, je suis en confiance avec Eric. Je suis non seulement heureux mais fier de vous rejoindre. Je me sens en sécurité chez vous et je n'aurais pas fait de télé si ce n'était avec vous deux.
Yann Moix va donc intégrer De quoi je me mêle, l'émission d'Éric Nolot, qui sera désormais diffusée le samedi à 23h, pile en face d'On n'est pas couché, l'émission de son ami Laurent Ruquier, où il était chroniqueur encore la saison dernière.
Cyril, hier, Amazon Prime Video a annoncé une série de nouveautés pour la France, et il y en a pour tous les goûts.
En effet, Amazon a décidé de voir grand pour la saison à venir. Après la catastrophique série Deutschland, cette fois, la plateforme américaine semble décider à monter en gamme. Il y aura 2 nouvelles séries, un jeu d'aventure et l'adaptation de Love Island, une émission émission de rencontre qui se déroulera en Afrique du Sud. Alors le principe, hein, il est assez simple. Vous envoyez des célibataires sur un lieu paradisiaque et vous attendez de voir ce qui se passe.
Oh, l'idée.
Sauf que quand même, cette fois l'amour et la séduction ne suffiront pas. Ah. Il faudra aussi se mettre les abonnés d'Amazon dans la poche car ils pourront voter chaque jour pour influer sur l'histoire qui se déroule tous les jours sous leurs yeux.
Autre nouveauté, un jeu d'aventure.
The Missing One, celui qui manque, la personne manquante hein, ouais. En français. Cette fois la direction, l'Australie. On voit qu'ils ont des moyens les Américains. Je vous résume l'idée. Quatre équipes composées de trois personnalités vont être envoyées au bout du monde pour tenter de résoudre une énigme. Et la première qui y parviendra remportera un petit chèque de 200 000 euros, reversé bien sûr à une association. Parmi les participants annoncés, trois champions du monde. Marcel Desailly, Emmanuel Petit et...
Robert, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Robert. Parce que t'es trop gentil. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des déconvenues.
Robert Pires, bien oui. Sûr, c'est pas Aimé Jacquet qui ira, c'est Robert Pires qui a musclé son jeu, voilà. Je vous l'assure.
On reconnaît la voix d'Aimé Jacquet, c'était dans le documentaire Les yeux dans les bleus, de Stéphane Meunier.
Oui, en 1998. Autre candidat, un trio de basketteurs, Tony Parker, Boris Dio et Marie-Sophie Obama. Pas la peine de demander, il n'y a aucun lien. Et il y aura eux.
Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais.
Les chanteurs préférés d'Hélène Manarino qui se préparent déjà à les faire pleurer le jour où ils viendront en studio. Il s'agit bien sûr de Big Flo et Oli, vous les avez ouais. Sans doute reconnus. Les deux frères seront donc au casting de ce Missing One, accompagnés de leur papa. Je vous le disais, Amazon accélère dans la production de contenu et semble aussi décidé à se diversifier beaucoup plus, par exemple, que ne le fait un Netflix.
Alors Cyril, il y a deux jours, vous nous parliez des compétitions de e-sport, le sport électronique, diffusées sur Bing Sport. Et aujourd'hui, c'est l'équipe qui sort l'artillerie lourde.
À ceux qui pensent que le e-sport n'est qu'un épiphénomène, vous vous trompez lourdement. Vous le disiez Philippe, l'équipe consacre aujourd'hui 8 pages à ce sujet et demain le e-sport sera en une du magazine L'équipe avec 16 pages rien que sur le sujet, dont une interview de Sébastien Debs, un jeune joueur français double champion du monde du jeu Dota 2.
Et pourquoi tous Ramdam ?
Eh bien parce que dimanche ont lieu les League of Legends Finals. C'est le point culminant de la saison de ce jeu vidéo. Un événement qui avait rassemblé tout au long de la journée l'an dernier près de 100 millions de personnes sur Internet. Preuve que cette discipline est bien en train de se démocratiser. La finale de dimanche, qui se déroule à l'Accor Arena, sera retransmise sur le site de France TV Sport et bien sûr, bien entendu, sur le site de l'équipe.
Et déjà, l'Accor Arena, il faut la remplir. On reste dans le sport. Cyril, après Netflix, Amazon, Apple, voici NBA TV, une offre de basket directement sur Internet.
Alors, je vous préviens tout de suite, désolé de la déception, cette NBA TV n'existe pour le moment qu'aux États-Unis, mais le mouvement est bien là, bien lancé. Cette chaîne 100% Internet, vendue $6.99, permettra aux fans de basket de suivre une centaine de matchs par saison, de revoir certaines rencontres mythiques et de suivre quelques émissions faites spécialement pour ce service. Sur le modèle de Netflix, la NBA inaugure donc une offre qui s'adresse évidemment au jeune public qui n'a pas forcément les moyens de se payer des abonnements au câble. En France, je vous rappelle quand même que si vous aimez le basket américain, il faut être abonné à Beansport.
Et il y a un truc absolument génial sur la télé de la NBA, c'est que si vous regardez Orlando contre Phoenix ou les Bulls contre les Rockets, vous pouvez choisir de quel côté par le commentateur. Ah, quand la balle sort en touche, boules, ils disent mince, perdu. Et sinon, ils disent super, gagné. C'est vraiment génial, on choisit son côté. Décidément, c'est tout à fait autre chose. Disney Plus fait encore parler d'elle cette semaine.
Et ça y est, on sait quand l'offre de vidéos à la demande de Disney sera lancée en France.
C'est incroyable. Extraordinaire. L'ensemble des mondes en est conscient.
Oh, c'est comme un rêve. Un rêve magnifique qui se réalise.
Quand je croyais avoir été au plus profond des choses, inattendu se produit ici.
Rendez-vous le 31 mars 2020. C'est ce que nous révèle cette petite bande-annonce mise en ligne hier soir par Disney France sur les réseaux sociaux, bien sûr. Il n'y a donc plus longtemps à attendre pour découvrir Disney+, qui sera lancé mardi aux États-Unis. Et selon un site spécialisé américain, plus d'un million de personnes ont déjà souscrit à un abonnement à ce nouveau service de vidéo.
Merci beaucoup Cyril Larcaillère. On vous retrouve la semaine prochaine et comment dire, bon week-end.
Merci.
Émission exceptionnelle de Culture Média puisque dans cette première heure, c'est le ministre de la Culture et de la Communication Franck Riester qui nous rejoint et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h-11h. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose ce matin dans Culture Média, Philippe.
Effectivement exceptionnelle, avec Franck Riester, notre invité jusqu'à 10h, le ministre de la Culture et de la Communication, en charge notamment de la réforme de l'audiovisuel. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour Philippe Bondel.
Merci d'avoir choisi Europe 1 et Culture Média pour vous exprimer. Nous avons 40 minutes devant nous pour balayer tous les grands sujets médias et culture de la rentrée. Il n'en manque pas, bien sûr, votre projet de loi de réforme de l'audiovisuel, projet qui traînait dans les cartons, mais que vous avez réveillé. Il doit passer devant les assemblées en janvier prochain. Votre ambition est d'édicter des nouvelles règles dans un secteur chamboulé par l'irruption de nouveaux arrivants internationaux, Netflix, Amazon, Disney ou encore Apple+. Il faut dire que la loi actuelle remonte à 86, quand le web et les smartphones n'avaient pas encore été inventés. Autre serpent de mer, la future BBC à la française, les télés et radios publiques regroupées en holding avec un président commun, désigné ni par le CSA ni par l'Élysée. On va aussi évoquer les nouvelles règles pour la publicité à la télévision et les revendications des radios un peu oubliées par ce projet. Et vous nous direz où vous en êtes dans votre combat personnel pour défendre la presse française dans son bras de fer qui l'oppose à Google sur la question des droits voisins. Mais d'abord, un sujet sensible qui touche directement au portefeuille des Français, la redevance télé dont la réforme s'apparente à une arlésienne, régulièrement évoquée mais aussitôt enterrée. Et là, dans son édition de mercredi, le Figaro annonçait la piste d'une redevance dont le montant serait calculé en fonction de la taille du foyer. En clair, il y aurait deux montants, un pour les personnes seules et un autre plus élevé pour les familles. Est-ce que vous confirmez ?
Non, je ne confirme pas. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même a dit que cette piste-là ne serait pas retenue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement une redevance dans notre pays qui finance ce qu'on appelle maintenant la contribution à l'audiovisuel public, qui finance l'audiovisuel public. Cette redevance est donc spécifique, c'est un financement spécifique pour l'audiovisuel public. Nous allons conserver dans l'avenir ce financement spécifique. Pourquoi je dis nous allons conserver ? Parce que cette contribution audiovisuelle publique, cette redevance, est adossée à la taxe d'habitation. Or, vous le savez, gouvernement a fait, le président de la République, ont fait le choix de supprimer la taxe d'habitation pour 100% des Français en 2022. Et donc, il n'y aura plus le support pour pouvoir collecter cette redevance. Et donc, nous allons devoir remplacer le système, mais nous allons maintenir un système affecté spécifiquement pour l'audiovisuel public, qui permet à la fois un financement pérenne de l'audiovisuel public et une indépendance par rapport au pouvoir politique.
Alors, deux questions, vers quelle réforme vous dirigez ? Tout le monde va donc payer le même montant ?
Alors, nous sommes en train d'y travailler avec Bercy, le dispositif final n'a pas été tranché. Nous avons du temps, puisque, je vous le rappelle, ça sera à partir de 2022, et donc nous avons du temps pour pouvoir modifier le dispositif de financement de l'audiovisuel public, mais qui restera affecté spécifiquement à l'audiovisuel public.
Pardon, monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais demander si tout le monde paierait la même somme, vous ne me répondez pas. Et quand j'indique que le Figaro indiquait qu'il y aurait deux montants différents suivant qu'on soit une personne seule ou une famille, vous me dites que cette option a été abandonnée. Donc, je n'ai pas compris. Il y aura un montant ou deux montants ?
Je vous dis qu'il n'y en aura pas de montant qui sera modulé en fonction de la famille.
D'accord.
Je ne sais pas quel sera le mode de calcul et et sur quelle taxe ou impôt sera adossée la contribution à l'audiovisuel public. Ça ne sera pas, en tout cas, modulé en fonction de la taille de la famille.
D'accord. Est-ce que ce sera adossé à l'impôt sur le revenu ?
C'est une des pistes sur lesquelles nous travaillons, comme une contribution universelle, comme tous les dispositifs. On regarde d'ailleurs ce qui se passe à l'étranger, puisqu'il y a différents dispositifs à l'étranger. Et le moment venu, bien évidemment, nous en parlerons et nous en débattrons avec le Parlement.
Alors, le montant de la redevance, il est de 139 euros, mais vous aviez acté une baisse. La baisse est de 1 euro. C'est une baisse symbolique, on dirait une publicité pour des voitures, pardon.
Non.
Passer de 139 à 138, c'est un peu chiche.
Non, mais je ne suis pas en train de dire formidable, on baisse la redevance. Je suis en train de dire pourquoi on a cette baisse de 1 euro. C'est qu'il y a une trajectoire financière qui a été déterminée de 2018 à 2022 pour l'audiovisuel public. Dans cette trajectoire, il y a un montant prévu de financement de l'audiovisuel public en 2020 qui est financé par la contribution à l'audiovisuel public, cette fameuse redevance. Or, le rendement, c'est-à-dire l'argent qui, in fine, va être perçu par l'État grâce à cette redevance, va être supérieur à ce qui est prévu pour le financement de l'audiovisuel public. Donc, on a deux solutions. Soit on le garde dans le budget de l'État, soit on le rend aux Français. Et donc, on a décidé de le rendre aux Français.
Juste 1 euro.
C'est 1 euro. Bah oui, mais bon, voilà, c'est plus une logique. Ça aurait été 2 euros, ça aurait été 2 euros. Ou s'il a fallu contribuer davantage pour permettre de garantir un financement pérenne pour l'audiovisuel public, il aurait fallu contribuer davantage.
Vous avez détaillé les contours de la future holding qui va regrouper France Télévisions et Radio France, à l'exception d'Arte et TV5 Monde. Une holding baptisée France Média, elle sera créée début 2021. Elle va piloter France Télévisions, Radio France, France Média Monde, l'INA. Son président sera désigné par le conseil d'administration dans lequel l'État sera majoritaire. Vous dire que ce ne seront plus les politiques qui vont nommer les gros patrons de radio et de télé.
Alors il y avait eu...
Parce qu'on a toujours dit ça, ça fait des années qu'on dit que c'est indépendant et ça ne l'est jamais. Chaque nouvelle réforme vient contredire la précédente qui nous disait que c'était indépendant. Bon,
d'abord, ça l'était, c'est-à-dire que les rédactions ne sont pas influencées par les décisions politiques.
Bien sûr, je parlais des grands patrons.
Voilà. Bon, et les grands patrons étaient nommés soit par le président de la République directement, soit par le CSA, c'est-à-dire le régulateur, c'est-à-dire l'arbitre du secteur. Vous conviendrez avec moi que c'est un peu compliqué que l'arbitre d'un secteur soit aussi un acteur majeur du secteur qui l'arbitre, en ayant la possibilité de nommer les présidents des grandes entreprises d'audiovisuel public. Donc là, on va voir mettre en place un système qu'on retrouve dans d'autres pays. C'est le conseil d'administration, dans lequel l'État sera présent mais pas majoritaire, qui nommera les nouveaux présidents des entreprises d'audiovisuel public, et notamment le patron du groupe public France Média, qui regroupera effectivement Radio France, France Télévisions, France Média Monde et l'INA. Pourquoi on fait ce groupe public ? On fait ce groupe public parce que, ça ne vous a pas échappé, il y a eu une révolution numérique. Ah oui. Que les usages de nos compatriotes ont évolué, qu'ils écoutent de plus en plus la télévision et qu'ils regardent de plus en plus la radio, quand ils veulent, sur le support qu'ils le souhaitent, au moment qu'ils préfèrent. Et donc, tous les groupes privés, tous les groupes publics s'organisent en ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire tout support, télé, radio, internet. Et pour ceux qui ont une activité internationale, que ce soit dans leur périple d'origine ou à l'international. Et donc, c'est ce qu'on fait avec ce groupe public. On donne les moyens, finalement, à l'audiovisuel public de permettre de s'adapter à la révolution des usages de nos compatriotes pour que les missions de service public, qui sont celles de l'audiovisuel public, qui sont importantes en matière d'éducation, en matière d'information, en matière d'accès à la culture, en matière de contenu de proximité, de rayonnement international, de cohésion sociale et nationale, puissent être mieux exercées et toucher davantage nos compatriotes. Et donc finalement, qu'on différencie mieux l'offre privée de l'offre publique et que, par rapport à cette redevance qui est payée par nos compatriotes, ils puissent avoir un service public encore de meilleure qualité qu'aujourd'hui.
Puisque vous parlez des nouveaux usages, monsieur le ministre, est-ce que vous allez revoir la chronologie des médias? Les chaînes de télévision publiques ou privées se plaignent, par exemple, de ne pas pouvoir diffuser de films le samedi soir, alors que sur Netflix ou toutes les plateformes, il y a des films où on veut quand on veut.
Alors, chronologie des médias, c'est un sujet vraiment différent.
Je sais, mais c'est parce que vous en parliez.
Oui, oui.
Des nouveaux usages.
Mais en tout cas, en ce qui concerne le cinéma à la télévision, effectivement, le mercredi soir, le vendredi soir, le samedi soir le dimanche avant 20h30, le cinéma est interdit. C'est pas normal. Il faut qu'on puisse, sur la télé gratuite, avoir accès au cinéma tout le temps. Et donc, on va supprimer ces jours interdits. Et donc, nos compatriotes pourront voir des films à la télé gratuite, bien sûr payante, mais aussi gratuite, tous les jours de la semaine, n'importe quand, n'importe comment.
À partir de quand ?
À partir, dans une première étape, à partir du 1er janvier 2020, et en totalité à partir du 1er janvier 2021. Pourquoi 1er janvier 2021 ? Parce qu'il faut attendre que la loi soit votée. En revanche, dans les outils juridiques qui sont les nôtres aujourd'hui, on peut, dès début 2020, faire bouger les lignes.
1er janvier 2020, monsieur le ministre, c'est dans 2 mois.
Oui,
c'est
bon. Dans 2 mois, on est en train de finaliser, mais il y aura déjà des souplesses permises pour permettre davantage de films à la télévision. C'est vraiment très important. Moi, je crois beaucoup à l'importance du cinéma, notamment du cinéma français. Et pour ça, il faut qu'il soit davantage accessible sur, bien sûr, les réseaux numériques, mais aussi à la télévision gratuite hertzienne.
Quid du mandat Delphine Ernot à la tête de France Télévisions? Que vont devenir France 4 et France O? On en parle juste après ça avec vous, monsieur le ministre Franck Riester.
C'est le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester, qui est l'invité Culture Média dans cette première heure. Émission à écouter et à regarder sur Europe1.fr. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Il a choisi Europe 1 pour s'exprimer et parler de tous les grands sujets culture et médias de la rentrée. Et c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est notre invité, Philippe.
Vous avez détaillé un peu les contours de la future holding qui va regrouper France Télévisions et Radio France, monsieur le ministre. Le mandat de l'actuelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernot, va se terminer en août 2020. Est-ce que son mandat sera prolongé pour aller jusqu'à la création de France Média au 1er janvier 2021? Ou alors, est-ce que vous allez nommer, entre guillemets, un pape de transition?
Alors, d'abord, la loi va être présentée au Conseil des ministres début décembre, va être débattue en première lecture à l'Assemblée nationale en février, et ne sera donc applicable ou appliquée qu'à partir du 1er janvier 2021. Ou à peu près. Et donc, la nomination, le renouvellement de Delphine Ernot arrive à l'été 2020. Et donc, son renouvellement ou la nomination de quelqu'un d'autre va être réalisé selon les mécanismes actuels. Or, actuellement, actuellement, c'est le président, enfin c'est le CSA qui nomme les présidents ou présidentes des entreprises d'audiovisuel public. Et donc c'est le CSA qui va décider soit de renouveler le mandat de Delphine Ernotte, soit de changer la dirigeante ou la dirigeante de France Télévisions.
Mais vous n'avez pas votre regard là-dessus, en tant que ministre de la Culture.
Dessus, c'est le CSA qui décide. Et j'aurais d'ailleurs pas mon regard directement ensuite, puisque c'est le conseil d'administration de l'audiovisuel public, de ces entreprises d'audiovisuel public qui nommeront les présidents de ces entreprises-là.
Qu'en est-il des chaînes France 4 et France O, dont la disparition a été annoncée? Quand vont-elles disparaître effectivement de la TNT? Quel est le calendrier?
Et je rajoute, pardon, parce que j'ai pas répondu totalement à votre question. En revanche, une fois la nomination faite pour la présidente de France Télévisions, le mandat continuera jusqu'à fin 2022. Alors que la loi va être applicable dès le 1er janvier 2021. Pourquoi ? Parce qu'on veut une transition. Il y a des plans de transformation qui sont décidés chez Radio France, chez France Télévisions. On veut qu'on aille jusqu'au bout du plan de transformation, jusqu'au bout de la trajectoire financière 2018-2022. Et à partir du 1er janvier 2023, les nouveaux conseils d'administration nommeront les successeurs ou renouvelleront les présidents des entreprises audiovisuelles publiques. Mais qu'à partir du 1er janvier 2023.
Compris. Je reviens à France 4 et France O dans
la disparition. La décision a été prise de mettre fin à France 4 et France O, mais en revanche, il est bien évident que nous ne mettons pas fin au contenu jeunesse.
J'ai bien compris.
Et au contenu qui touche à l'outre-mer, bien évidemment.
Non, mais la question que tout le monde se pose et qui pose polémique au sein des équipes, c'est quand ces deux chaînes vont-elles disparaître de l'offre TNT?
Courant 2020, vraisemblablement deuxième semestre 2020.
Après l'été.
Après l'été, oui.
Après la saison. Je voudrais parler de la réforme de la publicité parce que c'est également dans vos attributions, dans votre périmètre, monsieur le ministre. La réforme audiovisuelle va un peu modifier les règles de la pub à la télé. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez qu'il n'y aura pas de retour de la publicité après 20h sur le service public?
Oui.
Pourtant, ça aurait pu mettre du beurre dans les épinards en une période exige des économies.
On va développer les différents sujets de modernisation des règles de la publicité à la télévision, mais on ne veut pas augmenter la masse globale, le volume global de publicité à la télévision. Et donc, on ne veut pas, notamment pour France Télévisions, augmenter le volume et on ne veut pas modifier les grandes règles qui avaient été dictées il y a 10 ans maintenant. Et donc, on n'ouvrira pas la publicité après 20h à la télévision publique.
En revanche, 12 minutes de pub pour les chaînes privées par heure, ça bouge pas. En revanche, vous avez autorisé une troisième coupure de pub, mais seulement pour les films de plus de 2h.
C'est ça. Aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre de chaînes privées ne programment pas des films longs parce qu'ils sont pénalisés en matière de publicité. Donc, on dit, s'il y a un film long, et si les entreprises le souhaitent, il pourra y avoir une troisième coupure.
Indirectement, c'est presque une aide au cinéma.
Pourquoi je dis s'ils le souhaitent, si ces entreprises le souhaitent, parce qu'elles ne sont pas obligées de le faire. Elles pourront le faire. Une aide au cinéma, oui, c'est une aide à la diffusion des films longs.
Vous ouvrez la voie à la publicité télé au secteur du cinéma, qui jusqu'à présent était interdit. Qu'est-ce qui a motivé votre décision?
Nous avons besoin de conforter les modèles économiques des éditeurs de télévision qui sont très challengés par des acteurs internet qui arrivent, Netflix, Disney, Amazon, qui arrivent avec des offres qui perturbent les modèles économiques de ces entreprises. Et on a besoin de ces entreprises, non seulement parce que c'est des acteurs qui offrent un service de qualité, qui ont des emplois en France, mais aussi qui financent la création audiovisuelle et la création cinématographique. Puisque ce sont les diffuseurs qui financent en grande partie les productions cinématographiques et audiovisuelles. Et ces modes de calcul, ces obligations de financement et ces taxes qui permettent ensuite de financer ces contenus sont basés sur le chiffre d'affaires de la publicité à la télévision. Et donc plus les chaînes de télévision gagnent de l'argent à travers la publicité, plus ils investissent dans les contenus français et européens en matière d'audiovisuel et de cinéma. Et donc on veut qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires de publicité. Et pour cela, on leur donne les moyens de le faire. En pouvant moderniser les dispositifs, on a parlé de la troisième coupure, il y a la question de la publicité au cinéma, parce que c'est important de leur permettre d'avoir de la publicité nouvelle, et puis d'exposer aussi le cinéma à la télévision en matière de publicité, ouais, pour que les gens aillent davantage encore au cinéma, et aussi on va moderniser le mécanisme de la publicité en permettant ce qu'on appelle la publicité segmentée, la publicité adressée, géolocalisée, comme le fait l'Internet par exemple.
C'est ce qu'on voit sur Facebook.
Exactement.
Qu'on soit un homme, une femme, vieux, jeune, qu'on aime les voitures ou le foot, on a des pubs ciblées.
Ciblées. Alors là, l'idée, c'est de les cibler en fonction notamment de là où vous habitez ou des grands critères sociodémographiques.
Ça va démarrer quand?
Ça va démarrer 1er janvier, enfin début 2020 aussi.
Début 2020. Et ça va rapporter combien aux chaînes?
Alors, c'est pas complètement chiffré. Il y a une étude d'impact, mais c'est plusieurs dizaines de millions d'euros.
Vous restez avec nous, Franck Riester. On n'a encore pas parlé de Google. On a encore plein de sujets à voir avec vous.
À suivre dans Culture Média, le ministre de la Culture, Franck Riester, qui reste avec nous. Vous pouvez nous rejoindre et réagir sur Twitter, @E1CultureMédia, tout accroché. La suite de Culture Média, c'est juste après ça sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Invité exceptionnel ce matin dans Culture Média, Philippe, c'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui est avec nous pour cette première heure.
On va parler des suites du bras de fer entre Google, le géant américain, et les éditeurs de presse, c'est-à-dire les journaux papier qu'on a l'habitude d'acheter en kiosque ou de lire sur Internet, suivant les articles qui nous intéressent après une recherche, parfois via Google. Justement, une directive européenne du 26 mars dernier exige que Google reverse des droits d'auteur aux journaux. Je passe sur le mécanisme qui est assez complexe mais qui est là. Or, Google a déclaré la guerre en assurant qu'il n'était pas question de payer une licence pour la reprise d'un contenu, question de principe, et que si les journaux n'étaient pas d'accord, aucun problème, ils ne seraient désormais plus référencés sur Google. Et Franck Riester, vous avez déclaré à ce propos, la proposition de Google n'est pas acceptable. Au nom de quoi n'est-elle pas acceptable ?
Elle n'est pas acceptable d'abord par principe, puisqu'il y a une loi qui dit que les fournisseurs d'accès et les hébergeurs doivent absolument financer, enfin que Google, pour être simple, doit absolument financer les contenus qu'il met à disposition du public à partir du moment où il gagne de l'argent dessus. Il n'y a pas de raison que Google gagne de l'argent à mettre à disposition du public des articles de presse et sans payer celles et ceux qui créent ces articles de presse, c'est-à-dire les éditeurs de presse et les journalistes. Et donc c'est pour ça qu'on a créé un droit voisin au niveau européen. La France était moteur de ce point de vue-là. Et donc la France, en étant moteur, a permis que cette directive européenne, cette loi européenne soit votée. Et on est le premier pays qui a appliqué cette règle en transposant la directive européenne. Et donc il faut que les moteurs de recherche, Google, payent les articles de presse qu'ils mettent à disposition du public pour partager la valeur et que ceux qui gagnent de l'argent, Google, en mettant ces contenus-là, partage cet argent avec ceux qui créent les contenus.
Je vais me faire leur argument. Leur argument est que quand on va sur Google News, là où on voit les articles de presse, il n'y a justement pas de publicité.
Oui, mais vous savez très bien que d'abord, c'est pas tout à fait vrai. Et puis d'autre part, on sait bien que Google met sa publicité dès l'arrivée sur le moteur de recherche. Et donc, on voit bien qu'il capte la valeur dès le départ. Et il capte la valeur en ne rémunérant pas ceux grâce à qui il attire des gens sur son moteur de recherche. S'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus besoin d'aller rechercher sur Google des informations. Et troisièmement, c'est pas un contenu comme les autres, l'information. On est dans une société démocratique. Une société démocratique nécessite une presse libre et plurielle. Et pour cela, de plus en plus, les Français ont accès à cette information de presse de qualité via Internet et via les moteurs de recherche. Et donc, c'est vital pour l'avenir de la presse qu'ils puissent avoir un modèle économique qui leur permette de continuer de produire des contenus de qualité pour que les journalistes puissent continuer de faire leur travail avec professionnalisme. Et donc, il est logique que ceux qui font de l'argent, beaucoup d'argent, en utilisant ces contenus-là, qui ont une valeur toute particulière de dimension démocratique, puissent partager cette valeur avec ceux qui les créent.
Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur de recevoir Benoît Tabacage. J'ai l'honneur parce que les gens de Google parlent très très peu, voire jamais dans les médias. Directeur des relations institutionnelles de Google France, c'était la première fois que Google prenait la parole publiquement. On écoute les arguments de Benoît Tabacage.
En matière de moteur recherche, nous, on a construit une confiance. L'utilisateur, lorsqu'il vient sur Google, il est sûr d'avoir des résultats pertinents, fiables, de qualité diverse, mais il est sûr d'avoir cette logique de dire on recherche les meilleurs résultats qui correspondent à leur recherche. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas d'échange financier, on n'a pas de transaction commerciale quand il va s'agir d'apparaître dans le moteur de recherche. On ne paye pas les gens pour apparaître et on ne leur donne pas d'argent parce qu'ils apparaissent.
Réaction ?
Mais c'est tout le problème, c'est qu'ils prennent l'argent en utilisant des contenus sans rémunérer ceux qui leur permettent de mettre ces contenus à disposition.
Vous voyez, cette entreprise-là permet,
je suis allé les voir à New York, je les ai reçus à Paris.
Que vous ont-ils dit ? Où en êtes-vous de vos discussions ?
Ils disent peut-être qu'on peut organiser demain des partenariats qui permettent de rémunérer en complément les éditeurs de presse, les journalistes. Mais sur ce qui se passe aujourd'hui, niet. Et ce n'est pas acceptable parce que, encore une fois, on a besoin que les éditeurs de presse, que les journalistes puissent être rémunérés pour les contenus qu'ils mettent à disposition sur les moteurs de recherche qui gagnent beaucoup d'argent grâce à ça.
Je vais parler de radio ici sur Europe 1. Les grandes absentes de la réforme de l'audiovisuel sont les radios privées. Les principales radios privées françaises, les groupes RTL, Énergie, RMC, Europe, mais aussi Radio Nova et d'autres, ont relancé le Bureau de la Radio. C'est une association qui avait été créée il y a une dizaine d'années. Association qui demande notamment l'assouplissement des quotas de chansons francophones imposés aux radios musicales. Avec cet argument, l'univers radio lui aussi a changé. De plus en plus de gens écoutent la musique sur les plateformes comme Deezer ou Spotify. Or, ces plateformes ne sont soumises à aucun quota. Que répondez-vous aux radios ?
Que les quotas pour la musique francophone sont très pertinents, qu'ils ont des résultats, puisqu'on voit bien qu'il y a une émergence très importante de nouveaux artistes français.
S'il y avait des résultats, ils ne seraient pas en train de protester.
Mais en matière de musique...
Ils s'accommoderaient des quotas.
Non, en matière de musique, il y a des résultats très impressionnants.
Oui.
Et en revanche, ce qui n'est pas logique, c'est qu'il y ait une rupture d'égalité, d'équité entre les radios et les plateformes de streaming. Et donc, nous sommes en train de travailler à des dispositifs qui obligent les plateformes de streaming aussi à exposer mieux les contenus francophones. Comme ça, il n'y aura pas de rupture d'équité et de compétition.
Autre sujet qui fâche les radios privées, l'autorisation faite à Radio France de diffuser de la pub à hauteur de 46 millions d'euros par an. Avant d'être ministre, Franck Riester, vous aviez dit à radio public, à radio privée, financement privé.
Oui, c'est toujours l'objectif à terme, mais il est clair que...
Ah bah non, il y a 46 millions de publicités sur le service public de la radio.
Laissez-moi finir, je vous dis l'objectif à terme, mais pour autant, aujourd'hui, il n'est pas question de modifier l'équilibre financier des entreprises audiovisuelles publiques. Je l'ai dit tout à l'heure pour ne pas ouvrir la publicité après 20h et je ne veux pas modifier les quotas de volume de publicité à la radio aujourd'hui. Radio France a dans son modèle économique des ressources publicitaires et donc je ne souhaite pas qu'elles soient supprimées dans les années qui viennent.
Donc vous contredisez ce que vous disiez quand vous étiez député ?
Non, je ne contredis absolument pas ça. Je dis simplement que à terme, les réformes, les transformations auront été opérées, on propose une transformation importante de l'audiovisuel public. Aujourd'hui, il y a une partie de financement de publicitaire dans le modèle économique de la radio et de la télévision. Je ne veux pas casser ça. Pour autant, effectivement, je souhaite qu'il y ait une meilleure différenciation des contenus de l'audiovisuel public par rapport au privé. Et la logique de financement privé pour les médias privés et financement public pour les médias publics est une bonne logique, mais qui doit se faire à terme.
Vous êtes ministre Franck Riester de la Culture et de la Communication. On n'a pas encore parlé de culture, vous restez avec nous.
Oui, on continue à faire le tour de l'actualité culture et médias avec Franck Riester, le ministre de la Culture, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est encore avec nous pour quelques minutes, Philippe.
Vous êtes ministre de la Culture en charge des monuments historiques et notamment la cathédrale Notre-Dame. En septembre, 5 mois après l'incendie de Notre-Dame, le prestigieux quotidien américain New York Times a publié une grosse enquête sur la contamination dans les environs de la cathédrale et la réponse apportée ou pas par les autorités officielles. Le journal écrit ceci: les niveaux de poussière de plomb près de la cathédrale sont jusqu'à 1300 fois supérieurs aux normes de sécurité françaises. Et plus loin, au total, ce sont plus de 6000 enfants de moins de 6 ans qui vivent dans un rayon de 800 mètres autour de la cathédrale. Les autorités se sont toujours voulues rassurantes, et vous avec, monsieur le ministre, donc il y a quelqu'un qui ment, soit l'État, soit le New York Times.
Oui, je pense que le New York Times a donné des informations qui n'étaient pas fondées, effectivement. Quand il parle de 1300 fois, c'est sur le parvis où, effectivement, il y avait des normes très largement dépassées. C'est d'ailleurs pour ça que le parvis a été fermé, et est toujours d'ailleurs fermé, pour ne pas permettre qu'il soit accessible pour le grand public. Pour le reste, c'est l'agence régionale de...
C'est le nuage de plomb auquel on pense.
Voilà. Alors, c'est l'agence régionale de santé qui est en charge de ces questions-là. Moi, je leur fais totalement confiance. Ils prennent des mesures régulières à la fois sur un certain nombre de points de captage, captation de ces mesures de plomb, de ces niveaux de plomb dans Paris. Il y a un certain nombre de personnes qui sont testées. Et aujourd'hui, les chiffres sont très rassurants en matière de présence de plomb lié à la cathédrale. D'ailleurs, en fin de compte, le plomb, il existe dans Paris, c'est vrai, mais pas simplement lié à la cathédrale, parce qu'il y a des canalisations, parce qu'il y a des peintures, et donc c'est suivi depuis des années par l'Agence régionale de santé. Moi, je fais confiance à cette administration qui est très exigeante en matière de santé publique.
Et le chantier de reconstruction, où en est-il ?
Alors, sur chantier de reconstruction, on est toujours dans la phase de conservation, de sauvegarde de l'état de la cathédrale après l'incendie. Il reste à sécuriser encore la voûte, puisqu'il y a des déchets qui sont encore, des gravois, qu'on appelle, qui sont au-dessus de la voûte. Et puis, deuxièmement, il faut qu'on démonte l'ancien échafaudage qui était autour de la flèche et qui, avec la chaleur, s'est soudé. Et donc, c'est une opération très difficile. Ça va prendre plusieurs mois. On aura fini de... On pourra dire que la cathédrale est sauvée dans son état juste après l'incendie que dans 4 à 6 mois.
D'un mot...
Ensuite, on pourra commencer la restauration.
D'un mot, chez Dormant Péril, vraiment d'un mot, l'orgue de Notre-Dame qui va passer l'hiver exposé aux intempéries, vous allez le sortir de là, vous allez le sauver, qu'est-ce que vous allez faire pour l'orgue ?
Oui, oui, toutes les dispositions seront prises pour permettre à l'orgue de, bien sûr, être préservé. Il faudra ensuite le nettoyer, mais les opérations sont sous contrôle.
Libération, ce matin, sort une affaire édifiante, une enquête sur 3 pages, le titre au ministère de la Culture, les entretiens pervers d'un haut fonctionnaire, je lis, pendant presque 10 ans, un ancien responsable des relations humaines de la rue de Valois, c'est votre ministère, a administré à des candidates des diurétiques avant de les isoler, jusqu'à ce qu'elles urinent, pardon, pour les gens qui nous écoutent, qu'elles urinent devant lui. Il consignait ses expériences dans un fichier Excel. Finalement attrapé pour avoir photographié les jambes d'une sous-préfète, il a été mis en examen fin octobre. Vous-même, monsieur le ministre, quand avez-vous mis au courant de cette affaire ?
Bah, j'ai été mis au courant il y a quelques mois et il avait été mis au pied d'ailleurs bien avant que j'arrive au ministère. C'est une affaire complètement folle d'un pervers.
Je vais vous dire ce qui est frappant, c'est pas seulement que c'est l'affaire d'un pervers, je serais pas en train de vous en parler maintenant, et Libé ferait pas 3 pages là-dessus. C'est qu'entre 2009 et 2018, pardon, plus de 200 femmes, selon la liste qu'il a lui-même rédigée, ont été photographiées et ou intoxiquées au diurétique. Alors, au sein du ministère de la Culture, puis à la DRAC de la région Grand Est, la question c'est comment a-t-il pu faire autant de victimes sans jamais être découvert et sans que les langues ne se délient, alors que même dans les couloirs de la rue de Valois, dit Libé, on l'appelait le photographe.
Oui, écoutez, je sais pas, je peux pas vous dire ce point-là. Quand j'ai appris évidemment la nouvelle, j'étais atterré. C'est absolument scandaleux. La justice va prendre les décisions qui s'imposent. Mais d'une façon plus large sur ce sujet-là, comme sur les violences sexuelles ou sexistes, le harcèlement, nous avons besoin collectivement de dire les choses et d'accompagner celles et ceux qui savent et qui n'osent pas parfois parce que c'est des sujets sensibles. Vous avez dit tout à l'heure, pardon à ceux qui nous écoutent, on voit bien que c'est des sujets sensibles. Et ben c'est parce que c'est des sujets sensibles aussi qu'il faut savoir dire les choses, prendre la parole, ne pas avoir peur de le dire et d'accompagner ceux qui ont courage de révéler ce genre d'affaires.
Merci beaucoup Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication. Merci d'avoir choisi Europe 1.
Merci à vous Philippe
pour
Vendée.
Vous exprimer.
Dans un instant, on entame notre heure culture avec Thomas VDB, mais juste avant, place au rat d'auteur, votre rendez-vous d'humour avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.